Alors bonjour, je suis Cocktez du magazine Retro Game et donc je suis rédacteur pour ce magazine. J'écris pas mal d'articles parce que je suis souvent sollicité à la dernière minute.
Après vous avoir présenté, pouvez-vous nous présenter le magazine Retro Game?
Alors Retro Game est le premier magazine en France qui se consacre uniquement au rétro gaming. Suite à notre hors-série de Game Fan Game Museum qui a bien marché, on a décidé de consacrer un magazine entier au rétro gaming et c'est comme ça qu'on a décidé de sortir le magazine Retro Game.
Comment définir le rétro gaming? C'est quoi le rétro gaming?
C'est tout simplement, pour aller au plus simple, c'est jouer aux jeux rétro. Mais bon après, ça peut évidemment, si on peut approfondir la définition, tout est une question de nostalgie en fait. Il y a beaucoup de passionnés qui jouent au rétro gaming pour retrouver les souvenirs qu'ils avaient dans leur adolescence, dans leur enfance. Il y a toute une autre partie qui c'est uniquement pour collectionner ou qui aime bien parce que les jeux anciens deviennent rares et donc c'est dur à trouver. Donc c'est vraiment une passion d'essayer de collecter le plus des bons jeux rétro. Le rétro gaming, c'est un peu tout ça. Il n'y a pas vraiment de définition, quoi. C'est vraiment vaste.
Quel est le joueur type pour ces jeux rétro?
Alors, le joueur type, c'est quand même enfin, âgé. C'est dans une tranche d'âge à peu près entre 20 et 40 ans en moyenne. Beaucoup de jeunes, d'adolescents maintenant qui viennent au rétro gaming parce que bah, ils se passionnent pour le jeu vidéo actuel et bah, ils veulent connaître ce qu'il y a eu avant, retourner aux sources, quoi. C'est ce qui est un peu normal.
Mais le rétro gamer est-il aussi un collectionneur?
Ça arrive, oui, souvent, ouais, même. Quand un rétro gamer apprécie une série, il veut avoir tous les titres de cette série, comme par exemple Castlevania. Bah, s'il apprécie la série, il voudra essayer d'avoir tous les jeux de cette série. Donc, pour ce faire, il faudra qu'il acquiert toutes les différentes machines, parce que cette série est sortie sur différents supports. Donc, en arrivé là, après, il commence à avoir de différents supports. Donc, il va commencer à acheter des jeux sur les différents supports. Et puis, en partant de là, bah, généralement, voilà, c'est un engrenage. Donc, on a tendance à acheter toujours un plus de jeux. Et puis, on appelle après, ça devient de la collection à ce niveau-là.
Le rétro gamer, est-ce qu'il joue aussi aux nouvelles consoles?
Bah oui, quand même, souvent, oui, parce que comme je vous dis, par exemple, pour la série Castlevania, bon, c'est un exemple que je prends comme ça, hein. La série continue à être réactualisée, donc là, il y a un tout nouveau volet qui vient de sortir sur PS2, donc les rétro gamers ne dénigrent absolument pas les supports les plus récents, parce qu'il y a, enfin, sur les supports récents, les rétro gamers ont tendance à dire c'est beaucoup du réchauffé, ce qui n'est pas totalement faux. Mais il y a quand même des bons jeux qui sortent encore sur la machine actuelle et puis ils seraient dans leur tort de ne pas en profiter.
Peut-on parler de culture vidéoludique?
Oui, ben, évidemment, moi je travaille dedans, donc je vais vous répondre oui. Les jeux vidéo et donc
Que c'est récent quand même, les jeux
ouais,
vidéo
voilà,
encore.
c'est assez récent, mais ça brasse autant d'argent que le cinéma, même plus au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça, on peut vraiment dire que c'est vraiment un vrai business, le jeu vidéo. Et donc autour de ça, il y a beaucoup de choses qui se sont développées autour. Donc, il y a la presse vidéoludique, sur le net, il y a beaucoup de sites qui ouvrent sur les jeux vidéo. Il y a plein de films au cinéma qui sont adaptés de jeux vidéo, comme Doom ou comme Resident Evil ou d'autres. Donc ouais, c'est une vraie culture. Il y a vraiment des professionnels dans ce milieu-là qui s'y connaissent vraiment. Voilà, ouais, je compare au cinéma parce que c'est assez proche, c'est un peu comme ça audiovisuel. Et donc ouais, il y a vraiment des professionnels dans ce domaine-là. Il faut s'y connaître. Il faut pas raconter n'importe quoi, il y a un regard critique sur les jeux, et puis il y a vraiment des professionnels qui travaillent derrière pour les fabriquer, pour les concevoir, donc ouais, c'est vraiment une culture.
Quels sont les systèmes de jeu les plus joués par les rétro gamers?
Je pense que les plus joués, c'est la Super Nintendo et Super Famicom, Mega Drive, la Saturn aussi pas mal, et la Dreamcast. Enfin, Dreamcast, c'est rétro gaming plus récent, et la NEC, mais dans une moindre mesure. La Neo Geo aussi, mais c'est beaucoup plus pour les passionnés, parce que les jeux sont beaucoup plus chers. Mais c'est vrai que c'est pour cette machine que les rétro gamers sont les plus actifs, où ils continuent, parce qu'il y a eu, enfin, c'est la Neo Geo et la console qui a eu la durée d'existence la plus longue, voilà. Les rétro gamers qui étaient passionnés par cette console sont toujours très actifs, au prix très, enfin, exorbitant de certaines cartouches. C'est vraiment réservé à, enfin, l'élite entre guillemets, vraiment les plus fortunés qui peuvent s'offrir une Neo Geo et les jeux qui vont avec.
Pouvez-vous nous parler un peu du contenu du Retro Game volume 2?
Dans le Retro Game Volume 2, on n'a pas trop changé la formule, on a gardé les. Parce qu'on a fait un petit sondage donc, dans le Retro Game 1, donc on a vu quelles rubriques marchaient étaient les plus sollicitées, donc on a tenu compte de ces paramètres, donc on a On a gardé une... enfin, on a réduit un peu la partie micro parce que c'est vrai que les micros sont moins... ont toujours connu un public plus difficile. Enfin, c'est pas le même public tout à fait qui est visé. Et donc on a augmenté la partie console, on a fait des gros dossiers parce que c'était ce qui était demandé. On a fait un bon dossier Castlevania, un dossier Mario Kart, enfin un dossier sur la saga à l'Est aussi, des titres très populaires.
RetroGameShop.com, quel type de boutique c'est?
Bah, ça s'adresse à tous les rétro gamers qui recherchent des titres donc inconnus et donc des bons titres et surtout des jeux rares qu'on arrive à trouver pour des prix bien très compétitifs.
RetroGame est le petit frère de GameFan. Parlez-nous de ce magazine. Qu'apporte-t-il de plus dans la presse de jeux vidéo?
Ce qu'il a pour lui, c'est vraiment d'être en marge des autres magazines. Il est vraiment totalement indépendant des éditeurs, même si on a des partenariats évidemment, mais on reste sur ce qu'on sur le fond, sur les textes qu'on écrit. On est nous, enfin moi, comme tous les autres rédacteurs, sommes totalement libres d'écrire ce que nous voulons. Il n'y a pas aucune censure, donc si un jeu n'est pas bien, on le dit, franco. Et ça a un peu tendance à manquer dans les magazines actuels de jeux vidéo. Donc voilà. Et puis on essaye vraiment d'aller au fond des choses, de parler un peu de l'envers du décor, de pousser un peu la critique au-delà du truc conventionnel, de ce qu'on voit dans les autres magazines de test, où ils font juste que décrire comment ils jouaient. Et voilà. Nous, on essaie vraiment de regarder ce qu'il y a derrière.
Avec aussi quand même pas mal de place pour les RPG.
RPG, ça commence à prendre pas mal d'essor en France, parce que quand on voit l'époque de la Super Famicom où Nintendo ne voulait même pas traduire ces RPG tout juste un peu en anglais pour le marché des États-Unis, mais même pas en français, les importait même pas en France. Là, vraiment, la France commence à apprécier le RPG, ce qui est tout à fait normal, parce que la plupart sont des grands jeux. Si le RPG prend de la place chez les joueurs, bah c'est normal que GameFan aussi ça prenne plus de place dans nos pages.
Et au niveau de l'arcade, pensez-vous qu'en France, on joue encore aux jeux dans les salles d'arcade?
C'est vrai que l'arcade est un peu en difficulté, mais les jeux sont devenus de plus en plus chers à produire et les bornes d'arcade en elles-mêmes sont vraiment coûtent très cher aux exploitants de salles d'arcade. Donc bah ça a engendré des coûts de crédit. Les crédits sont devenus plus chers à l'unité. Donc c'est vrai que les gens ont un peu tendance à laisser l'arcade de côté. Ils n'y jouent plus aussi souvent qu'avant. Mais bon, ce qui est important dans l'arcade, c'est que c'est une bonne vision des jeux de demain, en fait. Parce que c'est vrai que l'arcade est souvent beaucoup plus puissante. Enfin, l'écart a tendance à se réduire, mais c'est vrai que l'arcade est souvent plus puissante que les consoles de salon. Donc c'est une bonne vision de ce qu'on aura dans les prochaines générations de consoles. Donc dans ce côté-là, c'est bien l'arcade. Et puis l'arcade, c'est vrai que y a toujours c'est pas les mêmes sensations, parce que comme je vous dis, il y a la borne autour. Donc quand on a un volant entre les mains, c'est pas pareil qu'un pad.
Combien vaut Radiant Silver Gun aujourd'hui?
Ça dépend, les codes fluctuent, ça va, ça vient. Mais en gros, là, nous, enfin, dans le magasin Retro Game Shop, on le vend à 150 euros avec Spin Card. Donc Radiant Silvergun en version japonaise, hein, je précise, parce qu'en fait, sur les CD japonais, ils mettent un petit bout de papier cartonné, donc qu'ils mettent sur la tranche du CD, avec réindiquer le jeu, le prix en yens, avec le code barre, tout ça. Donc c'est un petit bout qui se rajoutait, donc il était à l'extérieur de la pochette. Donc après, il y avait le blister par-dessus, enfin le papier plastique, le film plastique. Mais souvent, quand un joueur lambda achète le jeu, il enlève le blister et puis la spin card, hop, elle va à la poubelle. Donc c'est pour ça que trouver des jeux avec la spin card, c'est un peu plus dur. Donc les collectionneurs apprécient d'avoir la spin card avec leur jeu. Donc c'est pour ça peut faire monter le prix d'un jeu. Des fois, c'est assez élevé. Par exemple, le Radiant Silvergun, la spin card elle seule vaut à peu près, je sais pas, 30 euros.
Que pensez-vous des nombreuses compiles de rétro games qui sortent chaque mois sur PlayStation 2?
Ah ben, il y en a qui sont ravis, d'autres n'en ont totalement rien à faire. Pour les fans, c'est bien. C'est un moyen pour Sony et pour les autres éditeurs comme Konami, tout ça qui ressortent des compiles, Capcom, de faire de l'argent assez facilement. Mais bon, s'il y en a qui sont bien contents d'avoir des compiles comme ça, où ils peuvent retrouver les jeux de leur jeunesse pour des prix assez acceptables. Donc voilà, pourquoi pas.